Théologie naturelle, Saint-Joseph, par le Père Philippe, le 16 janvier 85.
Je reviens encore quelques instants sur la question du jugement de sagesse par rapport à la bonté souveraine de Dieu. L'homme, dans cette lumière, apparaît comme ne possédant qu'une bonté participée. C'est sur le livre du De Hebdomadibus, le commentaire de saint Thomas du De Hebdomadibus, où saint Thomas montre comment la participation regarde particulièrement la bonté. Et c'est une chose intéressante à voir, cela. Et c'est directement la question que nous nous posons ici, au point de vue du jugement de sagesse. Il y a laisser participer, et il y a le bien, la bonté participer. Et je crois que ce sont les deux grandes modalités de participation. C'est un problème qui touche directement le jugement de sagesse. C'est un des problèmes très importants au point de vue philosophique. Regardez la grosse thèse de Fabreau. Fabreau est un thomiste italien, le grand thomiste italien, c'est Fabreau. Il a un très sale caractère comme un bon thomiste, mais il est un de ceux qui pénètrent assez profondément sur le thomisme, et en Italie il fait autorité. Fabreau a écrit un gros livre sur la causalité, la participation. Le père Geiger a écrit un gros livre sur la participation. C'est évidemment un des sujets très importants et très difficiles. Et je crois que la participation ne peut se comprendre que dans la lumière de la sagesse. Et c'est ici peut-être où il faudrait le traiter, ou en critique, ou ici. Le passage, quelle différence y a-t-il entre la causalité et la participation? On entend bien la participation au sens philosophique, parce que la participation, on l'entend dans tous les sens. Quand vous l'entendez dans les gestions industrielles, la participation, alors ça ne prend pas tout à fait la même signification. Et alors c'est intéressant de voir cela. C'était une réaction que j'entendais lundi de quelqu'un comme Bergeron. La participation, ce sont des mots. Ce sont des mots qui ne signifient rien du tout. C'est de la théologie. Très bien ce que ça veut dire. L'autosuggestion, l'autogestion, c'est un mot, ça ne signifie rien du tout, c'est de la théologie. Alors à chaque fois que ça ne signifie rien, on renvoyait à la théologie. Et c'est vrai que d'une certaine manière, la participation, ça ne peut se comprendre qu'en théologie. C'est très curieux. Il disait quelque chose qui n'était pas si bête, mais il ne voyait pas jusque ça allait, tu vois, parce que la théologie naturelle, je ne parle de participation qu'à partir d'un premier. Alors le premier, c'est le Créateur. Quand on participe, on est second. Vous participez à la tarte. Là, vous comprenez très bien votre participation. Chacun a une partie. Et si on est plus nombreux, on a une plus petite partie. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'éliminer pour avoir une plus grosse part. Et c'est propre de la participation. On est second. La participation ne se comprend donc qu'à partir d'un premier. Alors, vous voyez la chose très curieuse. Quelle différence y a-t-il entre causalité et participation? Parce que c'est très lié. Alors, en gros, en très gros, un jugement historique assez grossier. C'est de dire la causalité en histoire, la participation, le néo-paternalisme. Puisque dans saint Thomas il y a de la participation, donc saint Thomas est néo-platonicien. Ça a été dit, je répète, comme jugement. Vous comprenez que c'est très très gros ça. Parce que la causalité, elle existe chez Aristote, elle existe chez Platon. Mais je crois qu'en effet, c'est Aristote qui a creusé le plus le problème de la causalité. Ça, c'est vrai. La participation, elle existe chez Platon, de façon très nette. Elle existe aussi chez Aristote. Mais Aristote dit, la participation n'explique rien. Mais il parle de la participation en philosophie du vivant et puis en logique. Autrement dit, on parle de participation, et ce que saint Thomas reprend dans son commentaire du De Hebdomadibus, on parle de participation quand on est en face de partie et de tout. Toute philosophie qui est entre partie et tout, c'est la participation qui domine. Ça, c'est normal, c'est la partie et le tout. Tandis que la causalité, c'est le fruit d'une analyse. La participation, c'est au contraire essayer de découvrir un ordre. Grâce à la participation, un ordre s'établit. Mais la causalité implique un ordre, mais ce n'est pas premier dans la causalité. Tandis que dans la participation, l'ordre est immédiat. Pas de participation sans ordre. Donc, on est en face de deux aspects très différents. Quand on cherche la causalité et la participation, on est en face de deux aspects très différents. D'un côté, c'est l'analyse. Et de l'autre côté, j'allais presque dire, c'est la synthèse. La participation permet de faire des vastes synthèses, de réunir la partie du tout. Et d'une façon plus précise, on dirait que la causalité, c'est toujours la découverte à partir du petit et la participation, c'est le pose. À ce moment-là, je crois qu'on saisit vraiment ce qu'il y a de distinct dans la causalité. La causalité, c'est toujours à partir d'une induction qu'on découvre la cause. Donc à partir de l'interrogation du TST, en prenant le TST dans toute sa généralité. Qu'est-ce que c'est? Vous cherchez. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez découvrir ce qu'il y a de premier. Et vous découvrez le premier dans l'ordre formel, le premier dans l'ordre matériel, le premier dans l'ordre de l'origine, le premier dans l'ordre de la finalité, le premier dans l'ordre de l'exemplarité. Donc, vous cherchez les premiers, tout simplement. Et c'est à partir de l'interrogation du TST. Qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez une chose que quand vous avez découvert ce qu'il y a de premier dans cette chose. La participation, c'est au contraire ramener la partie au tout. Donc c'est un regard de synthèse. Et c'est pour ça que c'est le pose, c'est le comment. Et ceci, je ne l'invente pas. Parce qu'on vous dit, oh, c'est vous, aristotélicien, qui dites. Un néoplatonicien, parce que c'est un problème qui m'a beaucoup tracassé. Hein. Je peux dire que. Parce qu'au Solchoir. Il y avait la division entre ceux qui étaient pour la causalité et la participation. C'était très intéressant comme bataille. C'était des batailles pour ceux qui étaient pour la causalité. Donc les aristotéliciens, et puis d'autre part, les néoplatoniciens. Alors le père Geiger s'inscrivait du côté des néoplatoniciens, et je m'inscrivais du côté de l'Aristote. On bataillait là-dessus. Et comme il avait fait sa thèse sur la participation, il y avait une matière. De sorte que j'ai essayé tout le temps de découvrir ce que c'est. C'est pas commode du tout. Et c'est difficile. C'est vrai que saint Thomas emploie constamment le mot participation. Constamment. Mais il n'emploie pas le mot participation pour l'épreuve de l'essence de Dieu. Il emploie le mot participation dès qu'on est en création. Dès qu'on est dans un jugement de sagesse. C'est ça qui m'a frappé le plus. Le mot participation implique toujours un jugement de sagesse, alors que l'analyse, c'est toujours la causalité. Vous analysez, vous recherchez les causes. Alors, un esprit d'analyse recherche les causes. Un esprit de synthèse est du côté de la participation. De sorte que je ne crois pas que c'est Aristote. C'est vrai que c'est Aristote qui analyse et que Platon et le néoplatonisme donnent plutôt des visions de synthèse. Ça, c'est très vrai. Mais il ne faut pas les opposer. Il faut simplement comprendre qu'il y a le point de vue du TST et le post. Alors, j'ai découvert en lisant Damasius, ça ne vous dit rien du tout, Damasius est un néoplatonicien, un grand, c'est le dernier des grands. Le dernier des grands. Damasius dit textuellement que la participation, c'est le pos. Alors quand j'ai découvert ça, j'étais heureux de voir que quelqu'un néoplatonicien me dise. Et c'est vrai, ça éclaire énormément, c'est le comment la participation. Vous cherchez comment vous êtes bon. Vous êtes bon en participant. Vous cherchez comment vous existez par participation. Mais ça ne vous dit rien du tout du TSTI. Rien du tout. Qu'est-ce que vous êtes à cette chose? Le comment, c'est la manière d'exister. Hein, n'oubliez jamais, c'est la manière d'exister. Tandis que le TSTI, c'est d'analyser ce qu'il y a de premier. La manière d'exister, c'est autre chose, c'est un état de fait. J'existe dans cet état particulier où je dépends d'un premier, dans mon existence et dans ma bonté. Alors, il y aurait quelque chose de très intéressant qui n'a pas été fait. Je vous signale des recherches qui sont intéressantes à faire de temps en temps. Et si ce serait la recherche de laisser participer et de la bonté participer, qui serait très intéressante à voir. Est-ce que c'est le même type de participation? Le père Geiger, dans son livre sur la participation, dit qu'il y a deux types de participation. Mais il le dit intuitivement, il essaie d'appliquer à des choses qui ne marchent pas du tout. Ça colle pas. Je me demande, alors, à titre d'hypothèse, n'y a-t-il pas en effet deux participations distinctes, celle de l'essai et celle de la bonté? Ne sommes-nous pas là en face de deux participations extrêmes? Vous voyez, le point de vue de l'essai, c'est premier et fondamental. L'essai participer, comment ou quoi? Comment la distinction de essence et essai? C'est parce que j'ai un essai participer que l'essai en moi est reçu. Qui dit participation dit quelque chose qui me tombe sur le dos. Hein. Ça ne vient pas de moi, puisque c'est participer. Je participe. Qui dit participation dit que c'est avalio. Hein. La participation, c'est toujours avalio. C'est-à-dire, ça vient d'un autre. Tout ce qui est participé vient d'un autre. Donc, ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas cause de ce que je participe. Je suis cause de certaines propriétés qui viennent de moi, et ces propriétés, par le fait même, je n'y participe pas, elles viennent de moi. Tandis que tout ce qui est participé en moi provient d'un autre. C'est le propre de laisser participer. Il provient d'un autre, donc il est reçu. Laisser participer est toujours un laisser reçu. Et laisser reçu, il présuppose quelque chose qu'il reçoit. D'où la distinction essence et existence. À l'intérieur de l'essai participer, nous faisons tout de suite la distinction entre essence et essai. Nous l'avons vu, hein, je vous le rappelle. Je vous le rappelle d'une autre manière pour que ça rentre mieux. N'est-ce pas? Alors je vous dis ici que l'essai participer, dès que vous l'analysez, vous avez immédiatement essence et essai. Comme distinct. C'est le propre de l'essai participer, parce qu'il est reçu. Quand il s'agit de la bonté aussi, participer, elle est abalion, elle provient d'un autre, et elle est reçue. Ma bonté est une bonté participée comparativement à la bonté de Dieu. C'est sûr. Je ne suis pas la bonté. Et vous non plus. C'est pour ça que quand on... on croit que quelqu'un est bon, on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'il a des limites dans sa bonté, et on est complètement déçu. C'est parce qu'on a cru qu'il était la bonté. Il n'y a que Dieu qui ne déçoit jamais. Toute bonté participée, donc la bonté de toute créature, implique des limites. Et donc, à un moment donné, ça déçoit. Et c'est terrible à porter. Parce qu'on avait cru, quand on aime, on croit toujours que celui qu'on aime est la bonté. Et on s'aperçoit à un moment, non. Sa bonté est une bonté participée. Et si sa bonté est une bonté participée, c'est donc une bonté seconde. C'est une bonté reçue. Ça, il faut en faire l'expérience, hein, vitale. Parce qu'on est dans le jugement d'existence, on est dans un jugement de sagesse. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter. Nous pouvons expérimenter la limite de la bonté de toute créature, donc de tout ami, de toute personne humaine. On expérimente sa limite dans sa bonté. Et en expérimentant la limite de sa bonté, ça va contre la bonté, puisque c'est la bonté participée. Si la bonté est participée, elle est donc reçue dans quelque chose qui n'est pas bon. Si ce quelque chose était bon, il n'aurait pas besoin de participer à la bonté. Et c'est là où vous cognez la tête. Parce que vous cognez la tête sur quelque chose qui n'est pas bon. Parce que c'est une bonté participée. Alors, quelle est la division qui commande la bonté participée? Comme il y a essence et existence. Donc la bonté participée, c'est une bonté reçue. Elle est reçue en quoi? Elle est reçue dans un sujet. Bon, ici, on peut dire qu'elle est reçue dans une personne. Parce qu'il s'agit de l'homme. Une personne qui implique donc une autonomie substantielle, comme toute personne, qui implique des qualités, des vertus. Tout ça est impliqué dedans. Il n'y a pas de bonté participée sans être reçue dans un être substantiel qui a son autonomie. La bonté substantielle en nous n'est pas la bonté ultime. Ma bonté substantielle n'est pas reçue. Ma bonté substantielle, elle n'est pas reçue. Qu'est-ce qui est reçu en moi comme bonté? Mes qualités, ben je les ai acquises. Il y a des qualités aussi qui sont innées. Oui, mais elles proviennent de ma substance. Donc les dispositions et les habitus qui forment les qualités. Les habitus sont acquis, les dispositions sont innées. Et tout ça, c'est le domaine des qualités. Tout ça n'est pas participé. Vous n'allez pas dire, j'ai une prudence participée. Vous avez acquis la vertu de prudence. Mais je ne pouvais pas dire j'ai une prudence participée. J'ai une tempérance participée. Non, j'ai acquis la vertu de tempérance. J'ai dit ça exprès pour que vous compreniez ce que c'est que participer, être dépendant d'un autre et vivre dans cette dépendance d'un autre et être justement sous le point de vue de cette dépendance de l'autre. C'est ça, être participé. Qu'est-ce que c'est que ma bonté participée? Je n'ai pas une bonté qui est substantielle. J'ai une bonté participée. Donc, elle est reçue. Et elle est reçue dans une personne. Ma propre personne. Ma personne implique la substance, implique des qualités. Et la bonté d'un être implique qu'il soit finalisé. Nous l'avons vu, ça. Qu'il soit finalisé. Un être n'est bon en acte que dans la mesure où il est finalisé. L'homme n'est bon en acte que quand il est finalisé. Autrement, il n'est pas bon parfaitement. Celui qui est capable d'atteindre sa fin, qui est capable de contempler et capable d'aimer, n'est pas bon d'une manière ultime. Il demeure bon quant à ses qualités, mais il n'est pas bon d'une manière ultime. Il n'est pas pleinement bon. Donc, la finalité va toucher le point de vue de la bonté reçue et participée. C'est là où va se faire le joint entre cette bonté reçue et cette bonté qui est la bonté même de mon être, ce qui me caractérise. C'est donc au niveau de la finalisation. Alors, on va étudier ça en un petit peu pour bien comprendre. Un être est finalisé, l'homme est finalisé, quand il atteint son bien. C'est dans un acte qu'il atteint son bien, dans une opération qu'il atteint son bien. C'est une opération. En termes techniques, on dira entelekeia. Un être est dans sa fin, il est finalisé. Et il est finalisé par une opération volontaire, c'est-à-dire par un amour. Je suis finalisé quand j'aime mon ami, quand j'aime Dieu. Je suis finalisé à ce moment-là, c'est-à-dire c'est par l'amour que je suis finalisé. Il n'y a pas d'autre manière d'être finalisé pour un esprit que d'être finalisé dans l'amour. C'est donc l'amour qui finalise. Alors, l'amour, il provient bien de moi. Mais en même temps, il provient de l'autre. Puisque tout amour, c'est une réaction vitale à l'attraction que le bien exerce sur moi. Le bien m'attire. Et en répondant à cette attraction du bien, j'aime. Vous voyez donc que la personne humaine finalisée, c'est elle qui aime l'ami, son ami, l'ami choisi, ou Dieu. Il y a donc, à l'intérieur de cette opération d'amour, deux aspects. Et c'est ça qui est si difficile de comprendre ce que c'est que la bonté participée. Il y a deux aspects. Il y a un aspect de dépendance à l'égard de l'autre. Quand j'aime, je subis une attraction. Et je réponds à cette attraction. Quand je subis une attraction, je suis donc en dépendance. Je comprends que je suis second. Je comprends à ce moment-là que l'amour en moi est participé. Et que c'est ma bonté participée. J'espère que vous voyez bien ce petit raisonnement. Parce que c'est là la différence entre l'essai et l'essence. Hein. Je reprends pour que vous compreniez bien. C'est parce que pour essayer de saisir ces deux participations extrêmes, vous voyez, qui relient les deux choses que nous avons vues jusque maintenant. Nous avons vu l'essai participer par rapport à la simplicité de Dieu. Dans toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Conclusion. Dans toute créature, donc l'homme en tant que créature, la bonté n'est pas substantielle. Vous vous souvenez, j'avais souligné ça fortement la dernière fois. La bonté n'est pas substantielle. C'est une bonté participée. Et cependant, cette bonté est une bonté personnelle. Quand elle est personnelle, elle est un peu substantielle, puisque la personne implique le point de vue de la substance. Et vous vous souvenez, c'était le gros problème qu'on avait souligné, comment l'ami peut être fin, alors que je l'aime dans un acte qui est accidentel, au point de vue de l'être, qui est intentionnel dans sa structure, et cependant, c'est absolument essentiel à moi-même d'être relié à mon bien. L'amour n'est pas une chose accidentelle. Et mon bonheur n'est pas accidentel. Et l'amitié qui me finalise n'est pas accidentelle. Elle est essentielle. Elle n'est pas substantielle. Ce n'est pas ma substance. Vous voyez, je dois faire la distinction entre les deux. Et je dois bien montrer que cet amour est essentiel. Il s'enracine dans ce qu'il y a en moi de plus personnel. Mais il n'est pas moi substantiellement. Je ne peux pas m'identifier à mon amour. Il n'y a que Dieu qui peut se dire qu'il est amour. Parce qu'en lui, la bonté est substantielle. Tandis qu'en moi, la bonté n'est pas substantielle. Donc, je ne peux pas m'identifier à mon amour. L'amour est toujours quelque chose qui vient s'ajouter. C'est pour ça que c'est la bonté participée. C'est difficile à bien saisir, mais je crois que c'est important d'y réfléchir. Parce que c'est ça qui fonde, en dernier lieu, comment l'ami peut être aimé d'une manière telle, l'ami, une personne humaine que je considère comme mon ami, peut être aimé d'une façon telle qu'il me finalise. L'ami est vraiment une fin. Et pour être fin, il faut que, justement, il rejoigne ce qu'il y a de plus profond en moi, ma propre substance. Mais il n'est pas ma propre substance, il permet ce dépassement de ma substance dans la ligne de ce qu'il y a de plus profond dans ma substance pour rejoindre l'autre comme mon bien. Et c'est là où je saisis ce que c'est que la bonté participée. Vous voyez ? Donc, c'est là où on voit très bien que la participation du bien et la participation de l'essai sont deux choses différentes. D'un côté, je suis en face d'une participation radicale et fondamentale qui fait appel à l'essence. Et de l'autre côté, je suis en présence d'une participation ultime qui fait appel à la personne. La personne seule peut être un bien substantielle et peut être vraiment celle qui participe le bien. La bonté a quelque chose de substantiel et la bonté est toujours liée à l'essai, comme la personne. Donc la distinction n'est pas entre essence et essai, l'essai est impliqué ici, la personne implique l'essai. C'est donc, vous voyez, c'est donc beaucoup plus la distinction ultime entre être en puissance et être en acte. C'est normal, puisque toute la métaphysique de l'acte, c'est ce qui est ultime, et le bien, c'est ce qui est ultime. Donc c'est tout à fait normal que, pour comprendre ce que c'est que la bonté participée, je ne peux le comprendre qu'en distinguant l'être en puissance et l'être en acte. Et cette distinction de l'être en puissance et d'être en acte, nous le verrons, ne correspond pas à la distinction de la substance et des accidents. Je ne dis pas plus, hein, pour ceux qui connaissent la métaphysique de l'être en acte et de l'être puissant, j'espère qu'ils voient. Les autres, ils attendent. Alors, nous allons continuer, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas d'autres questions par rapport à la bonté, nous allons continuer à voir le quatrième jugement de sagesse. Si l'être premier est sans limite, infini dans son être, toute créature, donc l'homme, est limité dans son être, mais dans la potentialité radicale de la matière, il y a quelque chose d'infini. Et dans l'homme, en son intelligence et en sa volonté, il y a d'une manière toute différente quelque chose d'infini. Alors on ne parlera pas, et ça c'est très curieux, on ne parlera plus de participation d'infini. C'est assez curieux du reste, hein. Parce que je pourrais dire, mais au fond, vous allez le retrouver. Non, deux grandes participations, l'essai et la bonté. Maintenant, nous allons regarder quelque chose de très différent. C'est tout le problème de l'infini de Dieu. Dieu est un être infini. C'est-à-dire sans limite. Dans la lumière de Dieu créateur, en contemplant son infinité, je peux juger de l'homme comme créature, en disant que l'homme comme créature est l'infini. L'infini et le fini. Ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire de la philosophie savent que le problème du fini et de l'infini, ça fait partie d'un de ces problèmes qui se retrouvent tout le temps. C'est le problème majeur de l'ontologisme, le fini et l'infini. Sur le séminaire de Malebranche, vous trouverez fini et infini. Tout de suite, un problème capital, très très curieux, et c'est très intéressant à voir. Si on regarde toute l'histoire de la pensée occidentale, alors un petit mot là-dessus, pour que vous compreniez mieux l'intérêt de ce problème. Saint Thomas est le premier, je crois bien, est le premier à avoir découvert. C'est une découverte, c'est une des originalités de saint Thomas comparativement à ses devanciers, d'avoir découvert que l'infini regarde immédiatement une des manières d'être de Dieu. Avant saint Thomas, chez les pères de l'Église, chez les théologiens, l'infini qualifiait l'intelligence de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Dieu est infini dans sa toute-puissance, Dieu est infini dans sa connaissance, Dieu est infini dans son amour et sa miséricorde. Ça qualifiait toujours un des attributs. Et saint Thomas est le premier à considérer que l'infini qualifie l'être même de Dieu. Et en faisant cela, saint Thomas se met en cède contrat, c'est-à-dire qu'il dépasse tout ce qui était dans la philosophie grecque, pour considérer l'infini, un tout petit peu la philosophie grecque, comprennent l'importance de l'apeiron, l'infini. Apeiron, vous comprenez bien. C'est-à-dire ce qui est sans limite, privatif. Ce qui n'a pas de limite, ce qui est sans frontière. Tout ce qui est sans frontière est infini. La frontière limite, hein, vient limiter. Alors, chez les Grecs, dans la philosophie grecque, le problème de l'infini était très très vite posé. Et le problème de l'infini était posé par rapport à la quantité. Que c'est du côté de la quantité qu'on trouve en premier lieu le point de vue de l'infini et le point de vue de la limite. Et par le fait même, l'infini ne pouvait pas être attribué à Dieu. C'était impossible de dire que Dieu est infini. Non. Vous ne pouvez pas attribuer l'infini à Dieu, puisque c'était dans l'homme de la quantité. Et facilement, on identifiait l'infini et indéterminé. Ce que saint Thomas a fait, c'est dans la question, regardez dans la somme, dans la question de l'infini de Dieu, saint Thomas a une question particulière sur l'infini de Dieu, et montrer que une des manières d'être de Dieu, c'est d'être infini. C'est-à-dire de ne pas avoir de limites. Saint Thomas montre que être infini n'implique pas l'indétermination. Au contraire, saint Thomas affirme que Dieu est infini parce qu'il est absolument simple. Et donc c'est à partir de la simplicité absolue de Dieu que saint Thomas affirme qu'il est infini. Ça, c'est très très joli. Et c'est très important. C'est donc bien distinguer l'aspect de la limite et l'aspect de la détermination. C'est une des choses que Leibniz n'a pas compris. Et c'est très important, ça a d'immenses conséquences. Ça a d'immenses conséquences. Si vous confondez limite et détermination, vous aurez au bout d'un certain temps une haine vis-à-vis de toutes les déterminations. Et vous aboutissez à Marcuse. Vous comprenez l'attitude de toute une série de bons chrétiens qui ont horreur des déterminations dogmatiques. Pour eux, c'est des limitations. Quand vous voyez des gens qui ont une horreur vis-à-vis du dogme, c'est qu'ils confondent détermination et limite. Et c'est ce qu'on doit tout de suite essayer de leur faire comprendre. C'est qu'en réalité, ils font une grosse, grosse confusion. Ils confondent la détermination et la limite. C'est pas de leur faute, hein. Depuis Leibniz, c'est comme ça. Or, la plupart du temps, c'est les erreurs qui se transmettent. Et les confusions qui se transmettent, beaucoup plus que la vérité. Les confusions se transmettent magistralement. Parce que c'est des conclusions. Alors ça se transmet, mais c'est toujours dans les conclusions que les erreurs se portent. Hein. Tandis que la vérité, c'est les principes. Et c'est difficile de transmettre les principes. Tandis qu'au contraire, les conclusions, ça se transmet très bien. C'est pour ça que les confusions et les erreurs, ça se transmet très bien. Alors on voit très bien que s'il y a confusion entre détermination et limite, toute détermination, elle vous met en prison. C'est une prison nouvelle, un nouveau dogme. Et c'est effrayant. C'est une nouvelle limitation, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne pourra plus dire. Alors que s'ils étaient intelligents, ils devraient dire un nouveau dogme. Mais c'est merveilleux, c'est une nouvelle vérité. Et donc ça me permettra d'aller plus loin. La détermination ne limite pas le spirituel. La détermination ouvre à quelque chose de plus. Plus j'atteins la vérité, plus mon esprit s'ouvre. Plus il va loin. Parce qu'il est déterminé. Il est dans la vérité. Tandis que si je confonds détermination et limite, et au niveau psychologique, hein, dites-vous bien que c'est la grande confusion qui se fait tout le temps. Si je confonds détermination et limite, un nouveau dogme est une nouvelle limitation. L'Église s'enferme de plus en plus dans des limites, parce qu'il y a des dogmes nouveaux. Alors qu'on devrait dire, la conquête de la vérité se fait de plus en plus. L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. On n'ira pas vers la limite tout entière. L'herméneutique de ça, vous voyez, la vérité c'est une détermination, mais si on est attentif à ça, c'est très très important, on dépasse Leibniz, parce que c'est une des grandes confusions de Leibniz, c'est peut-être la confusion fondamentale, c'est pas étonnant, c'est une confusion qui provient du fait que pour lui, son intuition dominante c'est le possible. Alors, l'intuition dominante étant le possible, au niveau du possible, pouvez-vous faire la distinction entre détermination et limite? Non. D'où la confusion qui commence à naître à partir de là. C'est une confusion d'idéalistes. Vous allez voir ça tout de suite. C'est très très important. C'est pour ça que cette question-là est extrêmement importante, d'essayer de comprendre dans la lumière de l'infini de Dieu la limite de l'homme. Les limites de l'homme, les limites de la personne humaine, dans la lumière de l'infini de Dieu. Alors, comprenons bien, la détermination, c'est du côté de la cause formelle. La détermination, c'est la spécification. Une forme détermine, une forme spécifie. La limite, c'est du côté de la quantité et du côté de la cause matérielle. Une quantité est limitée. Et en tant qu'elle est limitée, Elle a sa détermination. C'est ça qui est très curieux. La quantité, c'est le divisible. Philosophiquement parlant, on le verra. Ça. La quantité, c'est le divisible. Bon, le divisible, quand il est actué, il est limité. Il y a l'acte. L'acte dans le divisible, c'est la limite. Vous limitez. Mais vous actuez en même temps. Donc, vous voyez que la limite est toujours liée à la quantité ou à la matière. Alors que la détermination est liée à la forme. Vous êtes donc en face de deux aspects, deux axes de recherche tout à fait différents. Le point de vue de la causalité formelle et le point de vue de la causalité matérielle. Si on confond matière et forme, ce qu'on fait dans l'idéalisme, puisque dans l'idéalisme, on ne veut pas regarder la matière. La matière est une cause errante qu'on ne regarde pas. L'idéaliste a horreur de la cause matérielle. Hein, pas la supporter. C'est pour ça qu'il idéalise la matière. Et idéaliser la matière, c'est la supprimer. Hein. Parce qu'on ne va pas idéaliser la matière. Mais on la supprime, on ne la veut pas. Alors à ce moment-là, puisqu'on ne veut pas la distinction entre forme et matière, forcément, la distinction entre détermination et limite ne se fera plus. Ne se fera plus. Et alors on arrivera à des impasses. Saint Thomas, distinguant limite et détermination dans son réalisme, va dire « Dieu n'est pas limité, puisqu'en Dieu il n'y a pas de quantité. » Donc il ne peut pas y avoir de limite en Dieu. Mais Dieu est souverainement déterminé, parce qu'il est tout à fait simple. Donc il est souverainement déterminé. Si Dieu est souverainement déterminé, il est infini dans sa détermination. Oui, dans sa détermination, il est infini. Et c'est là où saint Thomas va nous donner une conception très précise de ce que c'est que l'infini. Il y a un infini privatif et un infini négatif. L'infini privatif, c'est celui de la quantité. La quantité est infinie, c'est-à-dire elle n'a pas de limite, elle n'est pas actuée. Donc ça, c'est l'infini privatif. Ce n'est pas une qualité pour la quantité d'être infini, puisque c'est un manque de limite. Il manque l'acte. Et puis il y a l'infini négatif. C'est justement la détermination à l'état pur, qui n'est pas reçue. Une détermination, une forme, quand elle est reçue dans la matière, cette détermination est limitée par la matière. Puisque le propre de la causalité matérielle, c'est de contracter, d'individualiser, et donc de contracter. Donc une forme qui est reçue dans la matière est limitée. Alors vous avez la détermination et la limite qui provient du fait même qu'elle est reçue. Une forme qui n'est pas reçue dans la matière, une forme qui se tient par elle-même, n'implique aucune limite. Donc elle est infinie. Vous voyez, ça, c'est ce petit jeu. C'est très beau comme analyse, hein, c'est très intéressant. Ça a de multiples applications. C'est pas toujours commode, c'est évident, mais retenez au moins, réfléchissez au moins sur ce fait que la limite et la détermination sont deux choses différentes. Première chose à bien saisir, ça. Causalité matérielle, causalité formelle. Deuxièmement, que l'infini est ou privatif ou négatif. L'infini privatif, c'est une imperfection. L'infini négatif n'implique aucune imperfection. Il exprime au contraire l'absolu de la détermination et de la forme. C'est pour ça qu'en Dieu, je ne peux appliquer que l'infini négatif. Mais je peux l'appliquer par rapport à sa simplicité absolue. Dieu étant absolument simple et donc absolument infini. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu,